Chase you out of earth.
Il est 20h passé de 3 minutes et tout de suite vous allez pouvoir retrouver une nouvelle émission de Génération Sport. Après 2 semaines d'absence, l'équipe est de retour. Bonsoir tout le monde, très heureux de vous retrouver une fois de plus. Vous êtes sur Radio G, sur le 101.5 FM ou bien sur le site internet le www.radio-g.fr. Comme l'a dit Alex, la semaine dernière il n'y a pas eu d'émission de Génération Sport, mais on va se rattraper aujourd'hui avec un programme assez chargé. On aura l'occasion d'en parler juste après que je vous ai présenté mes invités du jour. Alex, comme vous l'avez entendu précédemment, est du côté de la régie. Comment ça va Alex ce soir?
Ça va très bien. Voilà.
L'actu sportive te rend-elle heureuse?
Me rend-elle heureuse? Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent en ce moment.
C'est vrai.
C'est vraiment 2-3 rumeurs sur les transferts. Il y a Wimbledon, heureusement, qui a repris, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose.
Ouais, on aura l'occasion de parler de Wimbledon et peut-être même des transferts. On en parlera, c'est sûr, du côté
mais,
foot, on verra plus tard.
Il s'annonce plutôt sympa avec le Tour, Wimbledon et l'Euro féminin de football.
Ouais, d'ailleurs, après, une grosse nouvelle par rapport à un des concurrents, enfin un des cyclistes qui ne fera pas le Tour de France, on en parlera certainement tout à l'heure. Cédric est également avec nous. Comment vas-tu Cédric?
Ça va nickel.
Est-ce que toi aussi l'actu te rend heureuse?
Bon, en ce moment j'ai envie de dire, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent.
Ouais.
Parce que même les transferts, c'est quand même plein. C'est...
Oui, pour l'instant, vraiment, les côtés du foot,
en tout cas. On sent qu'il y a une Coupe du Monde qui arrive et que ça va pas trop bouger cette année. Et puis bon, quelques recrutements dans le coin.
Ouais.
Mais des annonces qui se font attendre aussi.
Ouais. De toute façon, on verra tout ça. Et Faustin est une fois de plus avec nous. Comment ça va, Faustin ?
Salut, bah ça va très bien.
De toute façon, on aura l'occasion de parler avec toi aussi de la finale NBA, puisque ton pronostic est tombé à l'eau. On en reparlera. Mais juste avant ça, Alex va nous faire un petit point sur les clubs angevins et même sur les transferts plus précisément.
Exactement. On va parler aujourd'hui des transferts, des mercato de nos clubs d'Angers. On va commencer par le SCO Handball, évidemment, avec cette relégation en National 1, l'effectif est complètement renouvelé avec 13 départs, notamment donc les cadres Jordan Bonilori, Mohamed Ali, le gardien égyptien, ou encore Victor Pelechenko, Grigorius Ioannou, Rodolfo Oliveira, Alexandre Abili, Mathieu Limousin, Tanguy Le Fur, Steven Corneille, et puis Dejan Cezic, Josip Gravac, Christian Anatazowski, et donc voilà, ça fait pas mal de départs. Et puis au niveau des arrivées, donc c'est Issam Tej qui a pris place sur le banc angevin pour la saison prochaine, hein, lui qui était déjà un peu en duo avec Denis Tristan, donc sur le banc scoïste. Là, il a fait marcher son réseau tunisien avec 4 joueurs tunisiens qui vont rejoindre donc ses rangs, avec donc Fares El Ghoul, Eshmi Belaret, Ashraf Safi et Mounir Douiri pour la plupart donc international tunisien, également un international qatari avec Ahmed Abdelhak, et puis on a également 4 français plutôt des jeunes avec Mathieu Reuil, Simon Bigard, Bastien Robin et Tom Balem. Voilà pour le mercato du SCO qui devrait encore peut-être annoncer plusieurs arrivées dans les jours à venir. Un mercato qui est lui définitivement clos, c'est celui de l'UFAB 49 qui a entériné officiellement son effectif aujourd'hui avec donc l'arrivée toute récente de Eva Picot dans le groupe professionnel. C'était une Angevine qui évoluait dans le groupe de N2 des Espoirs, et donc avec cette très belle saison qu'on connaît du côté de l'équipe réserve de l'UFAB. Du côté également du centre de formation, Axel Merceron, qu'on avait pu apercevoir sur quelques matchs, eh bien elle intègre aussi encore une fois le groupe. Ça vient évidemment se rajouter avec les 3 autres recrues, Ivana Yakubkova et Yovana Pasic, mais aussi Laila Lacan, donc un gros espoir du basket féminin français qui rejoint donc les rangs de l'UFAB. Et le côté départ, on a déjà parlé justement il y a 2 semaines avec Cédric, Jade Gaillard, Flora Eman et Adèle Dréano-Trécamp pour les françaises issues du centre de formation. Et puis on a également donc les internationales Audrey Rachidom, Brianna Richardson et Eva Jlonzak qui ont donc déjà quitté le club. Mais en tout cas, l'équipe garde sa grosse stature avec notamment Jasmine Bailey, Alexis Peterson ou encore Isis Arondo. On va parler maintenant du SCO. Là, les gars, vous pourrez évidemment intervenir. Je vais faire d'abord un petit état des lieux des arrivées et des départs. Du côté des départs, il y en a pas mal, notamment avec les cadres. On parlait évidemment de Romain Thomas, Ismaël Traoré ou encore Thomas Mangani qui a rejoint l'AC Ajaccio. Dans la semaine, c'était je crois hier ou dimanche, c'est Vincent Manceau qui a annoncé son départ du SCO après un très 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 grand nombre d'années au club. Il a même commencé en tant que tout jeune justement au SCO, et donc il va quitter le club. Donc voilà, ça va être des adieux déchirants pour lui, même s'il va pas pouvoir le faire devant le public. Et puis au niveau des transferts, on a également Mohamed Alichaud. Ça a fait beaucoup de bruit, hein, son départ à la Real Sociedad. On savait que Marseille était dessus, mais finalement il va partir du côté de Saint-Sébastien. Pour Jimmy Cabos, direction le RC Lens, hein, voilà, celui qui s'est révélé comme piston droit du côté du SCO, devrait probablement remplacer Jonathan Klaus en cas de départ de l'international français. Et puis un autre bon joueur qui a fait une plutôt bonne saison cette année, c'est Mathias Pereira-Lage qui quitte l'Anjou pour rejoindre la Bretagne et plus précisément le stade brestois. Du côté des arrivées, c'est encore un petit peu léger, mais en tout cas ça arrive progressivement avec des joueurs d'avenir comme Amin Salama, l'attaquant en provenance de Dunkerque. On y a également le milieu de terrain Imad Abdelli de Le Havre et également Mia Blazic, international slovène qui nous vient tout droit de Ferencváros en Hongrie. Donc voilà pour les arrivées et départs. Messieurs, au niveau de l'effectif, à quoi vous vous attendez? Est-ce que vous attendez encore des départs? Est-ce que vous peut-être souhaitez des départs? Et surtout, à quel poste peut-être pour les arrivées, quel poste pourrait être envisagé?
C'est surtout de l'argent qu'il va falloir.
Oui, c'est vrai.
Parce que bon, là pour l'instant, c'est pas forcément sexy hein, comme... comme arrivé, c'est plus, hein, on sent encore la politique du SCO de miser sur l'avenir et de renflouer un peu les caisses, parce que pour l'instant, hein, il n'y a toujours rien de fait, on le rappelle, sur le rachat du club. J'ai bien l'impression que si rachat il y a, ça sera sûrement après les transferts. Parti comme c'est parti, déjà s'il y a un rachat, c'est quand même étonnant, ça fait quoi? Quasiment un mois maintenant qu'on nous a annoncé qu'il y avait à avoir un rachat. Enfin, pour d'autres clubs, ça bouge quand même plus vite, étonnamment. Donc, il y a eu des articles là, qui sont sortis récemment sur l'évolution du SCO sur ces 10 dernières années. Quand on voit le classement, on trône plus vers la 15-16e place. On sait ce qui nous attend l'année prochaine. 4 descentes d'office. Donc il va falloir peut-être miser aussi un petit peu plus sur l'expérience et pas forcément sur l'avenir cette année. Quoi.
Ouais.
Ah ben, c'est un mercato qui fait pour l'instant très très peur. Je vois pas avec comment le SCO pourra se maintenir en Ligue 1 s'il continue dans cette logique-là. Parce que tous les cadres sont partis. Il n'y a aucun cadre qui reste.
La dernière, on avait peur par rapport à des sanctions de transfert, mais là, ça va être effectivement c'est un autre enjeu. En fait, chaque année, on a des nouvelles galères.
C'est gravissime. Là, en un mercato, le club doit avoir des sous, donc virer les cadres et donc les plus gros salaires.
Par contre,
sauf que derrière, comment ils jouent au foot?
Ouais, c'est ça.
Et c'est pas en recrutant des mecs qui... Enfin, alors, certes, les mecs qui viennent du Havre, c'est des jeunes pépites. Mais c'est pas des mecs d'expérience, c'est pas des mecs qui peuvent te porter à investir. Et quand on a une dizaine de départs côté en juin, et tous les joueurs qui sont partis étaient des joueurs importants.
Justement, est-ce qu'ils attendent pas d'avoir assurément de l'argent? Parce que là, on est en transition, je pense que c'est...
Mais de toute façon,
rien que la vente de chaud...
Le mercato se termine dans deux mois.
Le rachat du SCO, il est clair. Le rachat, ils en ont rien à faire de se maintenir en Ligue 1. Ils s'en foutent du sportif. Ils sont là juste pour l'argent, pour gagner de l'argent. Et le sportif, pour eux, ça passe au second plan. C'est ce qui est malheureux avec ce rachat et avec beaucoup de rachats d'Américains, de businessmen
américains. Parce que
pour l'instant, la trajectoire que prend le SCO, c'est dramatique. Vraiment, c'est dramatique. Ouais. Et si le SCO ne recrute pas mieux avec des joueurs d'expérience, je sais pas, par exemple, aller choper des joueurs qui partent de Saint-Etienne, de Bordeaux, des joueurs qui ont besoin de rester en Ligue 1, aller prendre ces mecs-là, prenez des mecs d'expérience. Apparemment, le SCO a refusé Wahbi Khazri. Je vois pas comment le SCO... quelle est l'intelligence de refuser un joueur comme Wahbi Khazri?
Je pense que c'est le salaire aussi.
Oui, mais le salaire, avec tout ce qu'ils ont vendu, je pense que le salaire, ils l'avaient pour
se payer Wahbi Khazri. Tu peux pas te permettre de recruter...
Mais c'est en recrutant des joueurs comme ça que tu te maintiens en Ligue 1. Là, franchement, pour l'instant, on court à la catastrophe.
Le problème, c'est que si tu t'acceptes un gros salaire, ça va donner des idées aux autres.
Ah oui, mais là, les autres, personne ne peut prétendre un gros salaire, vu que les joueurs qui sont au SCO n'ont plus beaucoup d'ancienneté dans le club.
Oui, mais les futurs contacts. C'est là que ça peut jouer.
On verra, mais en tout cas, pour moi, pour l'instant, ça part très très mal.
Pour l'instant, c'est un peu inquiétant.
Ouais, c'est inquiétant. Après, c'est vrai que la situation reste provisoire. Ça évoluera sûrement dans les prochains mois.
Ils ont repris l'entraînement ou pas?
Ils ont repris l'entraînement. Ouais, voilà, l'info peut être donnée. Ils ont repris l'entraînement, effectivement, avec notamment des retours de près de Loïs Diony et encore d'autres joueurs.
Même quand on voit, cette année, la préparation, elle est quand même léger en termes d'opposition, c'est les matchs habituels qu'on fait.
Ouais, c'est
ça reste limite, on joue que des derbies quoi pour se préparer.
Ouais, il y a un ou deux matchs contre Cholet.
Ouais.
Et donc sans
enlever leur qualité, hein, mais
sûr. Ils devraient jouer les équipes de Ligue 1.
Faudrait peut-être jouer quelques équipes de Ligue 1, même de bas de tableau. De toute façon, c'est toujours ça de prix, mais
Eh bien, on verra ça. Donc, dans cet été, ce sera notre petit feuilleton de l'été, donc avec tout ce qui se passe du côté du SCO. Il y a plein de choses intéressantes à dire là-dessus. On va partir du côté de l'EAB avec pas mal de changements, avec surtout le changement d'entraîneur, Ali Bouziane qui remplace Sylvain Delorme. Dans le staff, il y a eu pas mal de renouvellements, avec notamment l'arrivée d'un cadre de l'UFAB en tant qu'assistant. Mais du côté du poste de directeur sportif, c'est Joanne Ratuville, qu'on connaît bien ici à Génération Sport, qui est promue donc à ce poste de directeur sportif, donc pouvoir avoir la main mise sur tout ce qui se passe au niveau sportif justement. Et ça va être intéressant de le voir donc avec cette nouvelle casquette. Au niveau des départs, il y a eu pas mal de renouvellement d'effectifs. Je pense que on peut dire il y a moitié départ, il reste au club en fait, la moitié des joueurs restent au club. Au niveau des départs, on a donc Lucas Real formé au club, Karim Gourari, capitaine de l'équipe, Mohamed Choua, Joachim Haddad, Karl David Nkunku, Iwen Smoke et Tim Ebo qu'on avait reçu dans l'émission. Du côté des arrivées, on se focus sur les jeunes avec un quota des joueurs de moins de 23 ans qui doit être respecté pour les clubs de Pro B. On a donc les arrivées de Johan Choupa, Sean Tanner, et Florian Léopold. Donc voilà du côté des arrivées à voir donc dans les prochaines semaines s'il y a d'autres arrivées. Je pense que l'effectif n'est pour le moment pas définitif, il y a seulement 8 joueurs dans l'équipe, donc ça devrait évoluer dans le bon sens dans les semaines à venir. Du côté des Ducs d'Angers, ce qu'on peut signaler, c'est donc les départs de plusieurs cadres, notamment Danick Bouchard et Loïc Farnier. On a également Connor Ardoa, Riley Gunther et Jarrett Smith qui vont également s'en aller. Du côté des arrivées, on a les arrivées de Matt Prapa V6 et de Nick Ross. Donc voilà pour les arrivées. Au niveau des départs, notamment Danick Bouchard et Loïc Farnier, je me retourne peut-être vers vous les gars. Vous êtes plus orientés duc que moi. C'est vraiment deux cadres de l'équipe qui s'en vont.
Ouais, c'est souvent après. Ok, ça marche vraiment par période de cycle. Il y a soit c'est des questions de que les joueurs soit n'étaient plus dans les plans, donc ça ils partent dans d'autres clubs. Soit c'est l'âge, soit c'est juste simplement aussi une envie des fois de changer de championnat, de tout ça. Donc c'est toujours difficile de juger en fait si ça va être des grosses pertes ou pas. Enfin c'est en tout cas à mon niveau j'aurais du mal à juger, mais on sait qu'il y a quand même un bel effectif chez les Ducs. Mais c'est vrai que cette année, il va falloir peut-être se séparer de certains joueurs pour avoir un peu plus de jeunes aussi, comme il va y avoir la Coupe d'Europe à jouer. Ça va faire pas mal de matchs. Peut-être miser un peu plus sur l'expérience pour certains matchs. Et puis à côté, tenter sur la saison régulière justement de décrocher une petite pépite ou deux, quoi.
On va enchaîner tout de suite donc avec.
Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que vis-à-vis de cette Coupe d'Europe, on aura la chance d'accueillir la Coupe d'Europe dans la patinoire pour plusieurs matchs.
Oh, donc c'est très intéressant donc pour cette saison des Ducs d'Angers.
Il y a le calendrier qui est tombé apparemment aujourd'hui.
Ouais.
Des différents matchs de la Ligue Magnus donc.
Donc voilà. Premier match 16 septembre je crois,
okay.
À l'Ice Park. Max, on va enchaîner tout de suite avec l'actu international, si t'es d'accord.
Oui.
Avec pour commencer le tennis et Wimbledon qui a commencé.
Oui, Wimbledon avec déjà pas mal de résultats intéressants et surtout un premier tour qui réussit plutôt bien aux Français. Le Grand Chelem a débuté hier et donc comme je l'ai dit, les Français sont pas mal du tout. Il y a eu quelques petites surprises lors de ce premier tour. Fonini et Wawrinka qui sont d'ores et déjà éliminés. Enzo Cuoco, français également, éliminé. Hier, on a eu Benoît Paire qui s'est également fait éliminer, mais par un Français, Quentin Alice, Adrien Adrian Mannarino, pardon, lui aussi s'est qualifié, tout comme Hugo Humbert. Il y a eu également Djokovic hier qui s'est qualifié, tout comme Alcaraz, dans Alcaraz qui a vécu un match compliqué, un match en victoire finale en 5-7. Et en ce moment même, donc Tsitsipas est en train de jouer. On est sur le troisième set. Il mène 2-7-0. Et Nadal s'est qualifié il y a quelques instants. Hugo Gaston aussi a vécu un match plutôt chargé, victoire du Français en 5-7. Benjamin Bonzi également, le Français, s'est qualifié pour le second tour. Donc ça, c'était du côté du tableau simple, messieurs. Et du côté des dames, Mladenovic s'est faite éliminer dès le premier tour. Diane Parry, elle, s'est qualifiée, tout comme Caroline Garcia. Il me semble qu'il y a eu d'autres, donc ça c'était la journée d'hier. Et aujourd'hui, sinon en favori, Simona Halep s'est qualifiée, tout comme Swiatek. Et du côté des Françaises, Alizé Cornet évidemment s'est qualifiée. Et ce soir on attend le match de Clara Burel. Et justement, en parlant d'Alizé Cornet, je voulais rebondir sur une certaine chose, une polémique qui est sortie aujourd'hui dans les médias. Alizé Cornet, donc suite à donc dans le tournoi simple messieurs, il y a deux matchs notamment qui ont été amputés à cause du Covid, puisque l'Italien Berrettini et le Croate Cilic sont positifs au Covid-19 et donc abandonnent Wimbledon, ce qui est logique. Et Alizé Cornet a répondu à ça en disant que elle trouvait ça un peu scandaleux, puisque Roland Garros, ils avaient tous le Covid et pourtant ils ont décidé de tous jouer malgré ça. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Et je pense que ce petit débat peut être intéressant.
Bah, en vrai, bon, après, on sait pas trop si elle a raison ou pas. Après, c'est vrai que c'est assez compliqué. Peut-être qu'il y a eu du laxisme. De toute façon, c'était dans la période. C'est vrai que niveau mai-juin, c'était vraiment la période où le Covid n'existait plus, où vraiment les chiffres étaient au plus bas et où tout le monde profitait des levées, notamment du pass sanitaire ou encore du port du masque, ne serait-ce que dans les transports. Et donc voilà, je pense que après c'est quelque chose de ce moment-là où effectivement on n'a pas pris ça au sérieux, mais effectivement si c'est avéré, effectivement c'est vrai que c'est un peu scandaleux quand on sait toute la polémique qu'il y a eu sur Djokovic, sur son vaccin, sur pas mal d'autres choses. Et donc non, c'est vrai. Après voilà, faut savoir si elle dit vrai ou pas. Mais si elle dit vrai, c'est vrai que c'est assez normal.
Elle dit qu'il y a eu des accords entre tous les sportifs pour dire ok, on est positif, on le sait, puisque dans notre vestiaire il y a des gens qui ont été testés positifs, mais on va quand même jouer et on s'en fout en fait, tout simplement. Ouais. Cédric, t'en penses quoi toi?
Qu'elle ferait mieux de jouer et peut-être d'ouvrir un peu moins sa bouche.
Pour le coup, ça oui, fait... cette déclaration, enfin, elle est incompréhensible. Pourquoi
C'est complètement ridicule de balancer ça. Elle a aucune preuve.
Bah oui, c'est ça.
En tout cas, elle a avancé aucune preuve.
C'est compliqué de.
De toute façon, qu'il y ait eu des tests ou pas positifs, il y en a forcément eu.
Ouais.
Comme ça se trouve, il y en a actuellement dans le studio, comme il peut en avoir dans la rue, comme il peut en avoir n'importe où. Voilà, on voit que les chiffres actuellement sont en train de remonter. C'est pas forcément pour ça que. Enfin, que les gens, voilà, ils se contaminent comme ça, pour le plaisir, enfin. On sait que la maladie, elle est là, enfin que le Covid est là, il sera toujours là, comme tous les virus qu'il y a eu. Maintenant, voilà, si ça lui pose un problème, bah écoute, on peut pas faire grand chose pour elle. Non. C'est juste que bah si elle sent en danger, bah qu'elle.
Non, justement,
qui refuse. Enfin, tu vois ce que je veux dire.
Elle n'a pas dit ça comme ça. Elle a dit qu'elle trouvait ça inacceptable que des gens qui soient testés positifs au Covid doivent annuler leur compétition. Est-ce qu'elle, elle a dit après, alors, elle tient à peu près un discours similaire. Ouais, elle a dit, bah, on sait que le Covid est avec nous, on vit très bien avec, donc on joue tous, tu vois.
Ouais, mais dans ces cas, pourquoi balancer la punchline?
Oui, pourquoi balancer ça? Et surtout que ça donne une très mauvaise image d'elle, et même. Comme tu le disais, il y a eu des pieds et des mains pour l'histoire du vaccin avec Djokovic, avec l'Open d'Australie.
C'est ça, enfin encore.
Et au final, on se rend compte que l'organisation de Roland Garros, on n'avait rien à faire du virus. C'est très encore, bizarre, surtout venant du milieu du tennis.
L'Australie, ils étaient dans leur droit, ils ont agi illégalement, enfin voilà.
Après, pareil, c'est peut-être que les règles sont différentes en Angleterre et en France.
Oui, mais c'est
peut-être ça. Après, moi,
en Angleterre, à l'époque, c'était deux fois plus drastique.
Bah, c'est pour ça. Donc, c'était pour ça qu'ils ont dit, bah non, vous venez pas.
Non, mais enfin, Bon, bref, c'est un peu le problème avec les joueurs français en règle générale.
C'est une polémique, mais après, en plus, bon, pour l'anecdote, Isaac Cornet, donc pour revenir sur le sportif, elle enchaîne son 62e grand chelem d'affilée. C'est un record dans l'histoire du circuit WTA. Donc voilà, c'est pour la petite anecdote au passage.
Et toujours zéro victoire.
C'est vrai, c'est zéro victoire.
C'est aussi un record.
Il n'y a pas eu de victoire en double cette année ?
62 défaites.
En double, je sais pas.
62 grands chelems, 62 défaites.
Mais oui, elle a gagné aucun grand chelem en simple.
Enfin bref. En tout cas, voilà, il y a un autre match ce soir qui est très intéressant. C'est Harmonita, donc la française, qui joue contre Serena Williams, qui fait son grand retour à Wimbledon. Donc ça va être également intéressant à suivre. Le match vient de commencer et Harmonita, la française, a breaké d'entrée. On va enchaîner avec le basket et on va se diriger vers Faustin, puisqu'il y a eu pas mal d'infos depuis qu'on a déjà fait la dernière émission, avec donc la finale de NBA et la victoire des Golden State Warriors. On a eu la draft qui a donc eu lieu la semaine passée, et puis également la Betclic Elite, ça c'était ce week-end, avec la victoire de l'ASVEL donc en finale contre l'AS Monaco. Tu nous avais fait une petite présentation justement de la Betclic Elite, Faustin. Qu'est-ce que tu as pensé de cette finale, de cette victoire de l'ASVEL?
La victoire, elle est litigieuse. C'était à la fin de match, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est fini en prolongation. Voilà, c'était Monaco qui gagnait tout le long du match, et ils sont remontés un peu à la fin du match, c'est dommage. Moi j'étais plus pour Monaco en plus.
Ok.
Mais c'était une très belle finale. Les 5 matchs ont été pas tous disputés, mais dans l'ensemble c'était assez serré. Voilà, à chaque fois les équipes ont fait un partout dans leur match à domicile extérieur. Donc c'était serré. Même sur le dernier match, on le voit, c'est très serré parce que ça se finit en prolongation. Et l'ASVEL qui gagne pour la troisième fois d'affilée, bon bah, je sais pas si c'est la première fois, je crois pas, mais c'est beau quoi, de voir ça quand même.
Ouais, c'est vraiment une hégémonie sur le basket. Pour revenir sur notre finale, donc la NBA, effectivement, tu voyais plus dans le match 6 les Boston Celtics l'emporter, et finalement c'est les Warriors. T'as jeté un œil au match, au résumé?
Ouais, bah, je l'ai regardé en entier, hein, évidemment.
Parfait.
En direct. Le début du match, on a cru aux Celtics, parce que je crois que c'était à la 5e minute, ils gagnaient déjà de 10 points. On va se dire, c'est un blowout, c'est plié, les Game 7. Mais pas du tout, parce que très vite, les Warriors sont revenus, et c'est eux qui ont pris 10 points d'avance. Bah, ils ont gardé cette avance tout le long du match, et ils ont fini en beauté. Hein. Stephen Curry qui finit MVP des finales, c'est le titre qui lui manquait. Et c'est une saison très complète pour lui, où il finit, il bat le record de 3 points, il finit MVP du All-Star Game, il finit des MVP des finales de conférence, MVP des finales, c'est une très très bonne saison.
Du côté de la draft, est-ce que tu as jeté un œil? Est-ce qu'il y a, peut-être un jeune joueur justement que tu apprécies?
C'est ce qu'on va porter ma chronique.
Ah bah parfait, j'ai fait une ouverture. On fera ça juste après. On va d'abord finir le reste de l'actu, mais effectivement on va finir donc sur le basket avec toi juste après. Au niveau des autres sports, on a le top 14 avec le rugby, enfin plutôt le rugby avec le top 14, puisque c'est Montpellier qui a été sacré champion de France en s'imposant devant Castres. Donc voilà, Montpellier qui s'adjuge son premier titre de l'histoire,
et avec la manière,
parce que c'était plié très rapidement, vraiment c'était je crois 3 essais en 12 minutes, en un quart d'heure c'était quasiment plié. Il y a eu d'autres titres de champion de France qui ont été décernés, avec notamment le cyclisme et l'athlétisme. On va commencer avec l'athlétisme puisque ça concerne notamment une Angevine, Amandine Brossier, qui a remporté donc le titre en 400 mètres. Donc elle s'est imposée assez simplement donc face à ses rivales. Amandine Brossier qui était également impliquée sur le 200 mètres et qui a terminé 5e de la finale. Voilà pour tout ce qui est niveau de l'athlétisme. On peut rajouter quand même aussi donc que Marie Rivrault également du squatelet, qui donc cette fois-ci jouait avec les valides. Elle a donc terminé 5e de la finale de la perche. Et puis au niveau des autres faits de ces championnats de France d'athlétisme à Caen, on a eu donc Renaud Lavillenie qui n'a pas été champion de France. On a Sacha Zoya en 110 mètres haies qui a fait les minima pour les mondiaux et également qui a été champion de France et qui vraiment va être redoutable et à suivre en tout cas sur les mondiaux parce qu'effectivement c'était tout l'enjeu de ces championnats de France. C'était pour tous les athlètes français de faire leur minima pour participer aux championnats du monde qui auront lieu à Eugene, donc aux États-Unis.
Et puis on peut parler de Wilfried Apio.
Effectivement, oui.
Également, qui a vécu une finale un peu compliquée. Hein. Vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux ou même dans les médias. Donc, Wilfried Apio, qui est champion de France, même recordman de France, hein, il me semble, hein, sur 400 mètres.
Oui, et justement, il fait les minima pour.
Il fait les minima.
Et son record personnel.
Et le fait incroyable, c'est que cet athlète donc, a été agressé juste avant sa finale. On l'a vu débarquer avec un bandage à l'œil. On n'est pas là pour parler d'enquête judiciaire, mais en tout cas, ça ne l'a pas empêché de réaliser cette course incroyable.
La plus grosse course de sa vie, en plus.
Et de devenir champion de France. Donc,
assez fou, donc effectivement, ce qui s'est passé du côté de Caen. Dernière info, ça concerne le cyclisme, et après, on aura globalement fait le tour avec Florian Sénéchal, le Français qui s'est imposé donc, à Cholet. Alors, les championnats de France de course en ligne étaient donc du côté du Maine-et-Loire avec donc organisé à Cholet. Il y avait une boucle dans toutes les Mauges hein, qui permettait donc de d'élire, en tout cas de sacrer le meilleur français. Et donc c'est Florent Sénéchal qui s'est imposé devant Anthony Turgis. Voilà pour ce titre de champion de France pour Florent Sénéchal. À noter qu'il y avait pas mal d'absents, notamment Thibaut Pinot ou encore Romain Bardet. Alaphilippe était là, mais malheureusement, il ne sera pas là au Tour de France, Max.
Oui, Tour de France d'ailleurs qui va commencer vendredi prochain, le 1er juillet. Et évidemment, Tour de France oblige, le départ ne se fera pas en France. Une fois de plus, ce sera Copenhague pour cette année. Et d'ailleurs, il me semble que dès l'année prochaine ou dans deux ans, l'arrivée ne sera plus sur les Champs-Élysées à Paris. Je ne sais pas si c'est officiel, mais en tout cas, ça parle d'une arrivée à Nice. Donc voilà pour le cyclisme. Et puis, dernier petit point sportif, on va parler très vite fait des championnats du monde de natation qui ont eu lieu avec une belle performance française, avec notamment Léon Marchand, pardon, donc 20 ans, qui a remporté 3 médailles et qui a vraiment crevé l'écran. Donc, médaille d'or en 400 mètres, 4 nages, pardon, et record d'Europe par la même occasion, et médaille d'or, pardon, en 200 mètres, 4 nages, et également médaille d'argent en 200 mètres papillon. Et donc au final, l'équipe de France part de Hongrie et donc de Budapest, lieu de ces championnats du monde d'athlétisme de natation, pardon, avec un total de 8 médailles. Ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas vu peut-être une équipe de France de natation aussi imposante, avec qui on peut se projeter dans l'avenir pour les futures grosses compétitions. Qu'on voit par exemple Léo Marchand, talent brut, on peut se dire qu'il pourra faire que du bien évidemment à cette nouvelle génération de nageurs français.
Effectivement. On va pouvoir enchaîner justement, on va revenir vers Faustin avec sa chronique. On va donc, tu vas nous parler de la draft qui a eu lieu donc la semaine passée avec les enjeux principaux de cette draft.
Tout à fait, donc c'était jeudi dernier plus précisément. Donc c'est là qu'on peut voir les jeunes talents se voir arriver en NBA, notamment ceux des universités américaines. Cette année, c'était le Orlando Magic qui avait récupéré le pick numéro 1. On s'attendait à ce qu'il sélectionne Jabari Smith Jr. Cependant, c'est Paolo Banchero qui a été préféré, le joueur de l'équipe de Duke. Jabari Smith a lui été choisi en 3e position par les Houston Rockets. C'est quand même très très bien. Donc, le deuxième, c'est Chet Holmgren, le joueur de Gonzaga, qui a un physique vraiment extrêmement proche du français Victor Wembanyama, qui est lui attendu pour la draft de l'année prochaine, qui joue actuellement à l'ASVEL. Durant cette draft, on a aussi vu des Français. Il y en a eu 4 qui ont été draftés. Le premier, c'est Ousmane Dieng, qui a été drafté à la 11e position par Oklahoma City. C'est donc la même équipe qui a drafté Chet Holmgren. Il évoluera là-bas avec un autre Français qui est Théo Malédon, qui avait été drafté lui en 2020. Le deuxième, c'est Moussa Diabaté, qui a été drafté en 43e, pardon, du côté des Los Angeles Clippers, où il sera là aussi accompagné par un Français qui est Nicolas Batum, qui n'a pas encore re-signé chez les Clippers, mais qui risque de le faire. Le troisième Français drafté, c'est Ismaël Kamagaté, qui a été choisi en 46e par les Detroit Pistons, où une fois de plus il sera accompagné d'un Français dans cette équipe, qui est Killian Hayes, qui a lui été drafté en 7e position lors de la draft de 2020. Et enfin, le dernier joueur drafté à la 58e et dernière position de cette draft, c'est Hugo Besson, qui a été choisi par Milwaukee. Cependant, l'équipe compte le renvoyer en Europe ou en Australie, là où il évoluait avant, car il ne semble pas assez prêt pour jouer en NBA. Et il va falloir attendre un an ou deux avant de le voir rentrer dans le roster des Bucks et le voir évoluer en NBA.
Eh bien, merci donc pour cette chronique sur la draft. Donc, c'est assez intéressant. Donc voilà, pour ceux qui connaissent peut-être pas le principe de la draft, le principe c'est donc de choisir les meilleurs joueurs, les meilleurs jeunes joueurs pour rentrer dans la ligue. On enchaînera donc juste après la pause musicale par les débats. On va reparler des générations d'or puisqu'il y aura une grande émission dans une semaine tout pile. Donc soyez au rendez-vous. En attendant, on va s'écouter le titre de Soul King, Suavemente, et on revient juste après.
Suavemente, bésame. Je sors de la tête et je mets plus les mains en l'air. Suavemente, bésame. Je sors de la tête en moteur italien. Suavemente, j'ai traversé la mer. J'oublie pas ceux qui se lèvent tôt pour un salaire. J'aime pas me vanter, je fais ce qu'il y a à faire. Et j'aimerais que les miens sortent tous de la galère.
Italiano come Mario, te sacca da Marsiglia. In strada di Kitaka, pensa a far mangiare la figlia. In zona Salam Aleikum, dalla calle alle stelle. Non c'entra il colore, siamo amici per la pelle.
Suavemente, besame. Sors de la testa. Dodo dans l'avion. Fierté d'un DZ, c'est moi qui paye l'addition. Suavemente, besame. J'sors de la DS et je mets plus les mains en l'air. Suavemente, besame. J'sors de la DS en moteur italien.
Suavemente, besame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez.
Suavemente, besame. Suavemente, besame. Je sors de la DS et je mets plus les mains en l'air. Suavemente, besame. Je sors de la DS en moteur italien.
De retour dans les studios de Radio G pour cette seconde partie de votre émission sportive préférée Génération Sport, où on va parler des générations d'or. On va juste faire un petit rappel puisque la fin donc des votes ont lieu la semaine prochaine, dans une semaine.
C'est dimanche.
C'est même dimanche, pardon. Et l'émission spéciale aura lieu donc la semaine prochaine, mardi prochain à 20h. Vous en avez l'habitude, où on décernera justement les générations d'or. Donc on vous invite à aller voter. Il reste moins d'une semaine pour aller voter, donc on vous y encourage. On a déjà près d'une 200 de réponses, donc c'est déjà plus que bien. C'est au-delà de nos espérances,
mais on va relancer, compte sur moi pour relancer.
Voilà,
tout le monde
on est dans la dernière semaine
sur les réseaux,
on est dans le Fergie Time, donc on va tout donner,
tout est possible encore.
Et donc voilà, si vous avez envie de voir un sportif, une sportive, ou même un coach, ou même un club angevin, si vous voulez les voir voir recevoir un Génération d'Or, eh bien n'hésitez pas à aller voter sur le sondage. Rendez-vous sur l'Instagram ou sur même la page Facebook de Génération Sport, sur Twitter, voilà,
partout,
tous nos réseaux. Évidemment, et justement, parlons des Générations Sport. On l'avait commencé à le faire donc il y a deux semaines lors de notre dernière émission. On avait parlé de la première catégorie, il me semble, et là il nous reste quatre catégories à présenter et à débattre. Et donc Alex, on t'écoute pour la catégorie de la sportive de l'année.
Et oui, donc pour la catégorie de la meilleure sportive féminine angevine de l'année, nous avons donc cinq nominées comme pour chaque catégorie. Nous avons Clara Burel de l'Angers Tennis Club, nous avons Pauline Frélon de l'ESAC, également Vanina Paoletti de l'ESAC, Alexis Peterson de l'UFAB 49 et Marie Rivreau de l'Angers SCO Athlé. Voilà donc pour les nommés. Évidemment, comme la dernière fois, on avait parlé de ceux qui étaient un peu absents. Je vais tout de suite évidemment prévenir, il n'y a pas Amandine Brossier. Évidemment, la liste a été faite avant son titre de champion de France, outdoor, en extérieur, puisque notamment elle avait eu quelques difficultés pour s'imposer, notamment au championnat de France indoor, donc en intérieur. Et voilà, et c'est vrai que les cinq autres ont fait une saison assez remarquable. Messieurs, votre favorite pour ce titre, c'est vrai que ça peut être assez serré. Il y a eu des grosses saisons de part et d'autre. Quelle favorite, Cédric, peut-être pour commencer.
Je dirais Peterson pour moi.
Peterson.
Ouais.
Donc on rappelle. Donc,
élément important pour l'UFAB.
Pour l'UFAB, nominé.
Dans les cinq majeurs de.
De LFP,
LFP.
De la ligue, donc ouais, c'est une grosse une grosse saison pour elle,
une grosse saison, puis au-delà de ça, grosse saison aussi pour ses coéquipières, enfin c'est un peu compliqué hein, comme toutes les catégories, mais on sait je sais plus, mais oui, on les avait mis aussi dans la catégorie meilleur club.
Oui.
Ça va être une catégorie qui va être disputée.
Ouais.
Donc, si elle arrive à avoir ce titre-là, au-delà de ça, ce sera une récompense, en fait, derrière, de mon point de vue, oui, pour l'ensemble des joueuses.
Bien sûr. Donc voilà, donc Alex Peterson, on le disait, donc meilleure joueuse de l'UFAB cette saison, avec cette très bonne année du côté des Angevines. Faustin, toi, est-ce que tu as eu une sportive qui t'a marqué donc parmi ces cinq-là?
J'aurais dit aussi Alex Peterson, hein, qui, ouais, comme vous l'avez dit, c'est une très bonne saison avec nominée dans le 5 majeur LFP. Même collectivement, c'est très bien ce qu'elle a fait. Donc voilà.
Toi, Max.
Bah ouais, évidemment, je pense que Peterson se dégage vachement de ces cinq sportives. On en a beaucoup parlé hein, du 5 majeur, mais il y a aussi Clara Burel qui peut prétendre à ce titre, d'ailleurs qui est en train de jouer actuellement à Wimbledon, qui mène son premier set 2-0, puisque justement je regardais cette année, elle a fait son meilleur classement au classement WTA, où elle a fait 74e mondial. Donc c'est quand même une très très grosse performance. Ouais. Donc voilà, pourquoi pas, après elle est encore très jeune, hein. Ouais. elle a sa carrière devant elle. Donc voilà, je pense que Peterson,
ouais,
probablement risque de gagner. Ouais. Mais voilà, sinon Clara Burel pour,
et c'est vrai que
pour la citer.
En tout cas, alors, si on avait fait catégorie meilleur espoir féminin,
c'est vrai que Clara,
c'est vrai
Burel
qu'elle aurait eu clairement sa place.
C'est vrai que Clara Burel, donc déjà entre guillemets, elle fait l'honneur à la ville d'Angers de venir donc à l'Angers Tennis Club, puisqu'elle avait évidemment plein d'autres choix possibles, et donc elle est donc angevine d'adoption depuis peu. Du côté donc effectivement, on a deux amis proches avec Pauline Frélon et Valina Paoletti de l'ESAC, hein, elles s'entraînent ensemble du côté de l'entente sportive angevine canoë et kayak. Effectivement, pour Pauline Frélon, on a une victoire notamment en Coupe du Monde. Pour Vanina Paoletti, on a des très bonnes sélections pour les France qui ont été déjà faites. Donc voilà, c'est surtout des athlètes qui travaillent dans l'ombre cette année. Et donc,
il y a le projet 2024.
C'est ça, donc ça pourrait aussi récompenser ces efforts-là. Et puis également Marie Rivreau, donc qui a été médaillée d'or lors des 10 Flampics, hein, c'est les Olympiades cascade pour les personnes malentendantes ou sourdes. Et donc Marie Evreau qui a remporté la médaille d'or en battant le record du monde de cette discipline. En tout cas, voilà, c'était vraiment une grosse perf pour elle. Et donc, comme on l'a dit, elle a participé au championnat de France en extérieur avec donc ce plutôt bon résultat, être cinquième, déjà avoir participé à la finale et puis d'être cinquième de ces championnats de France. Et puis effectivement, donc on a Alexis Patterson qui est vraiment l'une des favorites déjà de la table, et puis surtout je pense dans le cœur des Angevins, c'est celle qui surtout s'impose le plus. Donc personnellement, c'est vrai que c'est, je trouve, assez serré. Et ouais, j'aurais dit Patterson. Je pense que dans le cœur des Angevins, ça va être assez clair de ce point de vue là. On peut enchaîner tout de suite avec le meilleur entraîneur. Là, c'est assez serré. Alors, on a aimé mettre une entraîneur féminin, mais en tout cas, voilà. Pour l'instant, ça concerne vraiment les gros clubs, hein, donc forcément des gros travaux de la part des coachs, des dirigeants qui ont fait de très bonnes saisons. On a plusieurs titres, hein, dans ceux qui sont nominés, donc c'est vraiment assez important, notamment Sylvain Delorme de l'Étoile Angers Basket, qui a été donc champion de France de National 1, David Pilar, champion de France de Pro avec les Loups d'Angers, ça concerne le tennis de table, pardon. On a des entraîneurs qui donc ont permis à leur équipe, dans un parcours assez similaire, d'éviter de la course au maintien, de se qualifier même pour les playoffs, avec David Gauthier de l'UFAP 49 et Laurent Villa de Cholet Basket. Et enfin, évidemment, le titre également en Coupe de France pour Ethan Goldberg, l'Américain, du côté des Ducs d'Angers. Messieurs, quel est votre favori là-dessus? Il est vrai qu'il y a eu des très beaux projets sportifs portés par ces entraîneurs là, lequel vous a plus marqué?
Compliqué, parce qu'on a quand même deux entraîneurs qui réussissent dès leur première année. Donc, est-ce qu'on récompense ce fait là, ou est-ce qu'on récompense un peu l'expérience? Et même pour les Loups, c'est vrai qu'ils ont été décrochés le titre dans le dernier match.
Dernière journée, ouais.
Donc il a fallu gérer tout le mental qui allait avec. Donc compliqué. Pour moi, je mettrais forcément l'entraîneur des Ducs favori. Mais après, ouais, compliqué à voir pour les raisons que j'ai citées.
Max?
Ouais, je partage le même avis. Ethan Goldberg, bah, lui, il est arrivé sa première saison sur le banc angevin, et gagner la Coupe de France, plus être vice-champion de France de la Ligue Magnus et se qualifier donc pour l'Europe la saison d'après, c'est une très très grosse performance. Et ça faisait quelques années que on n'avait pas vu les Ducs à ce point-là, sur avec un tel niveau, tout simplement. Donc je pense que ce serait logique de récompenser ça. Mais après, voilà, Sylvain Delorme aussi, avec sa saison du côté de l'EAB aussi, ce serait normal de les récompenser. Mais en fait, tous ces cinq coachs mériteraient, c'est vraiment dur à leur décider, manière, d'avoir une récompense.
Ouais. Faustin, toi?
Moi, j'avais plus sur Sylvain Delorme.
Ouais.
Parce que justement, ils ont complètement déjoué les attentes, l'EAB, parce qu'on ne les attendait pas à gagner ce championnat. Donc voilà.
T'allais dire quelque chose, Cédric?
Non, mais je reviendrai après.
Moi, personnellement, effectivement, je partirais plus sur Sylvain Delorme. Alors vraiment, comme a dit Max, vraiment, les 5, c'est très, très, très serré. Il y a eu des très gros travaux là-dessus. On a vraiment 3 entraîneurs qui ont gagné un titre, donc c'est assez important. Mais c'est vrai que Sylvain Delorme, un peu comme Ethan Goldberg, d'arriver dans ce nouveau projet, dans ce club, en un an, obtenir un titre de champion de France de National 1, derrière d'obtenir la promotion en Pro B qui était vraiment l'objectif du club depuis des années. Je trouve que c'est assez incroyable. Puis surtout, il y avait un style de jeu qui était très fort, qui était vraiment très imprimé. Je pense que c'est important quand on exerce le métier d'entraîneur. Donc là-dessus, je pense que Sylvain Delorme mériterait donc le titre. Après, évidemment, c'est très serré. Et puis après, peut-être qu'il va payer aussi son départ, puisque les Angevins peut-être lui en voudront de quitter le club. Donc en tout cas, voilà, sur cette section donc des meilleurs entraîneurs, on va faire un petit point Avant d'enchaîner sur les autres catégories, puisqu'il nous reste à peine 10 minutes, ça va faire plaisir à Yann. On va parler de judo avec notamment l'équipe de France cadet qui avait disputé donc les championnats d'Europe, donc du côté de la Croatie à Porec. Voilà, c'était entre les 23 et 26 juin. L'équipe de France a fait fort avec cette première place au classement des nations. 11 médailles, 3 en or, 5 en argent et 3 en bronze. C'est vraiment la meilleure performance de l'équipe de France cadette sur cette compétition depuis 10 ans. Donc voilà, bravo à tous ces apprentis judoka qui, évidemment, montrent encore la force du judo français qui rayonne donc sur l'Europe et sur le monde. On va pouvoir donc enchaîner avec une autre catégorie dès à présent, avec le meilleur espoir. Alors effectivement, on a mélangé filles et garçons avec Mohamed Alicho du SCO, Jade Gaillard de l'UFAB 49, Johan Makundu de Cholet Basket, Hugo Robineau de Cholet Basket et Théo Sarliève des Ducs d'Angers. Messieurs, pareil, même question, vous auriez choisi qui ?
Eh ben, je pense que j'aurais choisi un des deux joueurs de Cholet Basket. Même si je connais par exemple beaucoup mieux, j'ai beaucoup plus suivi la saison de Mohamed Alicho ou encore de Jade Gaillard. Je pense que Makundu et Robineau, surtout Makundu qui est passé pas très loin de la draft, visiblement, et qui même lui a réagi, semble avoir un avenir très très prometteur, donc voilà, je miserai sur lui, même si voilà, Mohamed Alicho est peut-être le plus connu des cinq,
ouais,
et celui qui a la plus grosse médiatisation, donc il y a des chances qu'il gagne, et il le mérite au vu de sa saison. Mais voilà, au-delà de ce qu'on voit tous les jours à la télé, voilà, je pense que Makundu par exemple mériterait ce titre.
Toi, pareil, Faustin.
Ouais, évidemment, Makundu. Moi, j'adore comment il joue.
Ouais, gros coup de cœur cette saison.
C'est un ailier qui met des gros dunks, ce genre de choses. Ça manquait un peu à Cholet.
Ouais, c'est vrai.
Et ça fait du bien.
Après les grandes années de Rudy Gobert, notamment.
Ouais, tout à fait. Et en plus, il était sélectionné pour la première fois en équipe de France.
C'est aussi vraiment un gros achèvement pour lui. Ouais. Ouais.
Je crois qu'il joue ce soir même l'équipe de France ou non, pas longtemps.
Oui, c'est ça, c'est les éliminatoires pour le ouais, mondial 2023.
Tout à fait. Donc, hâte de voir ce qu'il va donner au sein en équipe de France.
Toi, Cédric.
L'avis populaire, oui, forcément, ça risque d'être chaud. Mais pour moi, je verrais plus quelqu'un du basket.
Ok.
Je pourrais pas déterminer qui, mais. Pour les Ducs, c'est peut-être sur la seule catégorie où je vois peut-être moins être favori, en tout cas.
Après, les Ducs,
au vu de la saison, après,
je pense qu'il y a beaucoup moins de. Enfin, c'est pas le sport en soi est différent.
Non,
basket, c'est vraiment un sport qui peut révéler des super grandes stars. Et les Ducs, c'est vrai que c'est plus sur la durée. Il y en a pas beaucoup qui percent à la vingtaine. Donc le basket, je pense, et puis au vu des nombreuses pépites qui sont passées par Cholet Basket, voilà.
Même au vu de la saison du SCO et même celle de Chaud, elle n'a pas été non plus
oui,
aussi exceptionnelle que sa première année. Donc à la rigueur, si on avait voulu enlever quelqu'un de cette liste pour le remplacer, c'est peut-être celui que j'aurais peut-être enlevé, quoi.
Ouais, justement, on en parlait tout à l'heure, le fait que d'avoir une Clara Burel, elle aurait pu être
dans le sport.
Après, on a pris le parti pris de la mettre dans les sportifs de l'année, on n'a pas pu la remettre ici, mais c'est vrai qu'elle aurait pu prendre la place de Mohamed Alicho. Et voilà, de toute façon, elle aura encore le temps de remporter ce trophée-là.
Pour ma part, effectivement, je vais me diriger vers Johan Makundu. Il a fait vraiment une saison incroyable. Il a permis à Cholet de jouer les playoffs, déjà de sauver Cholet déjà de la relégation. Comme on a dit, c'est un gros dunker, il est assez impressionnant. On a, je pense, de la chance de l'avoir à Cholet. Et puis voilà, cette récompense avec la sélection de l'équipe de France, c'est assez prodigieux ce qu'il a fait cette saison. Donc je partirais sur Johan Makundu, mais effectivement, Mohamed Alicho, moi effectivement, ouais, je le trouve intéressant. Évidemment, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, mais mais il peut prétendre donc à cette victoire finale. À voir donc les résultats dans une semaine. Pour le meilleur club, on va essayer de faire vite, hein, on va libérer très bientôt les studios. On a donc l'Aiguille d'Angers avec ce titre en Coupe de France, l'Étoile Angers Basket avec ce titre en National 1, les Loups d'Angers avec ce titre en Pro A, on a le Score Rugby avec le centenaire, l'année du centenaire pour les joueurs du Score Rugby, enfin pour le club du Score Rugby, et puis également l'arrivée de la section féminine au niveau du club angevin, et puis l'UFAM 49 avec leur retour en LFB et le succès qu'elles ont pu connaître. Messieurs, rapidement, vos favoris par rapport à ces clubs-là?
Petite bataille entre les Ducs et l'UFAM, je dirais.
Possible, ouais. C'est les chouchous du public, hein, genre,
en
je
tout
pense.
En cas, ouais, je pense, ouais.
Pareil, Faustin.
Ouais.
Clairement.
Ouais, je pense que ça se jouera entre les deux. Je pense que les Ducs gagneront.
Ok.
Et personnellement, je voterai pour les Ducs parce que, comme j'ai dit, ça fait tellement du bien de revoir cette équipe à un des plus gros niveaux français. Et voilà, ça faisait des années que ça n'était pas arrivé. Et puis depuis quelques temps, avec la patinoire, avec ce nouveau coach, avec enfin, il y a tout qui va dans ce sens-là. Et donc, il faut récompenser ça. Donc, voilà, les Ducs le méritent. Les autres équipes le déméritent pas. Mais pour moi, les Ducs, c'est un petit cran supérieur.
Oui, c'est vrai que j'avais coupé mon micro. Oui, c'est vrai que les Ducs partent favoris quand on sait que l'Ice Park est très souvent rempli, qu'il y a une grosse ferveur autour des Ducs. C'est vrai qu'ils partent évidemment favoris pour ce titre. On va donc.
Je voulais juste rajouter un petit
vas-y,
truc, parce que tout à l'heure, quand on évoquait les entraîneurs, par rapport à David Gauthier.
Oui.
Ce qu'on peut saluer, c'est sa double casquette, en fait.
Oui, parce que
depuis deux années maintenant.
T'as raison.
Voilà, il est entraîneur principal de l'UFAM, mais il est aussi dans le staff de l'équipe de France féminine.
Oui.
Et on peut saluer la performance de en course saison, de passer d'une casquette à l'autre, tout en ayant réussi à mobiliser ses joueuses, en ayant fait faire c'est un ensemble du groupe, bien sûr, mais les résultats de l'équipe de France féminine aussi en basket étaient très intéressants, donc voilà.
Effectivement, on peut le souligner. Donc, on vous donne rendez-vous dans une semaine, donc mardi 5 juillet à 20h sur les antennes de Radio G, émission exceptionnelle. C'est l'apothéose de la saison. Voilà comment bien finir la saison avec donc ces trophées qui sont remis. On aura peut-être quelques surprises pendant cette cérémonie. Et puis, voilà, on est très heureux de vous proposer ça. Max, tu voulais rajouter quelque chose?
Oui, juste faire un petit point sur le match de Clara Burel. Donc, elle menait 3-0. Elle a été rattrapée à 3 partout et donc dans ce 7e jeu de ce premier set, elle est avantage, donc avantage à 40 pour Clara Burel et elle jouera demain son premier tour en double.
Très bien, et bien donc on vous donne rendez-vous encore une fois donc pour les Générations d'Or, la première édition 2021-2022, donc ce sera la semaine prochaine. On vous quitte avec le générique et puis surtout la suite des programmes. Tout de suite, c'est Imaginaire sur les antennes de Radio G.
Le jour où on m'a dit va falloir faire tout seul.